Odile Descol à portée de notes. Bonjour à tous, que diriez-vous d'une promenade en forêt ? Par cette douce température automnale, les arbres en feu, en compagnie d'Alexandre Glouc. Alexandre Glouc était fonctionnaire des Eaux et Forêts, en Bohême. Il était aussi ancien arquebusier des armées du prince Eugène. Et il avait pour habitude de promener toute sa marmaille, ses 8 enfants, en forêt et parfois pieds nus. Pour les endurcir à la vie. Il aimait la vie rude. Il savait aussi faire fructifier ses biens. Alors il emmenait ses fils, donc faire de grandes balades dans la forêt, dont un, Christophe, Willibald Gluck. On dit bien Gluck, car le nom de famille est tchèque, qui veut dire garçon ou gars en bohème. Et oui, Christophe est né le 2 juillet 1714. Nous sommes à un an de la mort de Louis XIV en France. Voilà, il va donc accompagner son père, selon les emplois qu'il va avoir de fonctionnaire des eaux et forêts, au service de plusieurs princes de Bohême. Et dès son plus jeune âge, eh bien Christophe montre des dispositions pour la musique. Et à Kreiblitz, où son père est en service du comte Kinski, dont d'ailleurs descend Klaus Kinski, le fameux acteur, eh bien il suit ses premières leçons de musique et apprend le violon. Et puis son intérêt va croissant. Et c'est là que tout devient difficile, parce que le père Alexander n'a pas du tout, mais alors pas du tout, envie que son fils devienne musicien. C'est un travail de saltimbanque, et quand même, il ferait bon de devenir, comme lui, fonctionnaire. Alors, nous avons des joutes parentales, avec le fils qui s'enferme dans sa chambre, qui oublie le violon, bien sûr, et qui, quand même, pour essayer d'apprendre la musique, se met à la guimbarde. Évidemment, l'instrument est beaucoup moins bruyant et il a l'avantage de permettre de s'exercer en cachette. Et donc, Christophe, le petit Christophe, va continuer à apprendre la musique de cette manière. Et à 20 ans, après une querelle plus forte que d'habitude, eh bien, il quitte la maison. Et comme son père l'a emmené très régulièrement à pied dans les forêts, il quitte la maison à pied pour Vienne. Et il gagne sa vie en jouant de la guimbarde ou de l'orgue dans les églises ou en quêtant des mots de recommandation pour la ville suivante. Quelques années plus tard, quand même à 23 ans, il va se réconcilier avec son père et aidé du prince Lobkowitz, il va gagner Vienne pour y faire de véritables études musicales. Et là, il va rencontrer l'empereur Charles VI, qui impose, lui, son goût pour l'opéra seria italien. Alors, qu'est-ce que c'est que l'opéra seria italien ? Eh bien, l'opéra seria italien, c'est un opéra de langue italienne, forcément, qui a un caractère noble et sérieux, par opposition à l'opéra bouffe comique, qui est très en vogue en Europe, mais pas en France. Cet opéra seria, il est construit d'une façon très stricte. Il utilise ce qu'on appelle un aria da capo. Da capo, en italien, ça veut dire de la tête. Ça veut dire qu'on commence par un air, qu'ensuite il y a un petit air au milieu et qu'on refait le premier air. Et ces arias sont séparés par des récitatifs durant lesquels progresse l'action. Nous allons d'ailleurs écouter un extrait d'un air d'opéra seria tiré de Haendel de Rinaldo. Vous allez voir, première partie, seconde partie et on reprend la première partie. Écoutons cet air de Rinaldo, Lascia che io pianga. Vous avez donc eu un exemple de ce qu'est un air d'opéra seria, donc un air suivi d'un autre passage et une reprise du premier air. Cet air était enregistré à la basilique Saint-Rémy de Reims en 2001. Naturellement, Gluck va continuer à faire continuer ses études. Il est très très attiré par l'art lyrique. Et il apprend donc la forme conventionnelle de l'opéra seria, souvent sur des livrets de métastases. Et puis, en 1743, il va perdre son père. Il aura perdu sa mère 3 ans auparavant. Et il va quitter Vienne et, accompagné du comte Saint-Germain, il part pour Londres, où il va rencontrer Handel, dont nous venons d'écouter un extrait. Il crée comme ça, le 4 mars, Artamen. Et l'éditeur Walsh publie un choix d'air favori de Gluck. Il commence à être connu. Et il se fait entendre sur des orgues de verre qu'il a inventés. Ben oui, Gluck, il a inventé un instrument. Il exécutera d'ailleurs avec orchestre un concerto pour 26 verres à boire, accordé à l'eau de source. Voilà un instrument des plus bio, dirons-nous actuellement. C'est un nouvel instrument sur lequel on peut exécuter, comme dira Gluck d'ailleurs, ce qui est exécutable au violon et au clavecin. Il se produira souvent avec cet instrument-là. Il retourne en Allemagne en 1746 pour le mariage de la tante de Louis XVI. Et oui, Marie-Anne de Saxe est la sœur de Marie-Joseph, Marie-Joseph, mère de Louis XVI. Il va créer le mariage d'Hercule et Hébé. C'est une évolution très très importante d'une manière stylistique pour Gluck, c'est-à-dire que l'expression musicale des sentiments se fera là au moyen des instruments par des recherches d'effets. On va aussi voir dans cet opéra une apparition de ballet, ce qui n'existait pas avant. Et il va créer ainsi Sémiramis pour l'anniversaire de l'impératrice Marie-Thérèse. Marie-Thérèse qui, rappelons-le, est la mère de Marie-Antoinette. Il va faire la connaissance de Métastase et en 1750, année de la mort de Bach, eh bien, il va épouser Maria Anna Pergin, 18 ans, avec laquelle il aura 18 ans d'écart. L'amour triomphe, annoncer sa victoire, il met tout son pouvoir à combler nos désirs, on ne peut transcender sa gloire. Il la trouve dans nos plaisirs, il la trouve dans nos plaisirs, il la trouve dans nos plaisirs. Oui, en cette année 1750, le 15 septembre, eh bien, Christophe est très heureux. Il épouse Maria Anna Pergin, 18 ans, donc il a 36 ans, donc ils ont 18 ans d'écart. Et oui, l'amour triomphe, comme vient de nous le dire Rameau dans son opéra Pygmalion. Maria Anna est la fille d'un riche négociant de Vienne. Ils n'auront pas d'enfants parce qu'ils ont des difficultés à en avoir. Et en fait, ils vont adopter la fille de la sœur Rosine de Christophe, qui s'appelle Marianne, à qui il va apprendre à chanter. Et le ménage va s'installer chez la belle-mère. Je n'ose vous dire comment se passaient parfois les dîners. Mais enfin bon. Ensuite, Gluck va partir à Vienne et il va y rester de l'âge de 38 ans jusqu'à 60 ans. Il va y acquérir une renommée internationale. Il est nommé compositeur officiel de la cour. Il arrange aussi, en 1757, des vaudevilles, des comédies vaudevilles françaises pour le théâtre de la cour. Ces ouvrages sont très, très en vogue à l'époque. Et à l'origine, ils étaient joués aux foires de Saint-Germain et de Saint-Laurent à Paris. Ça va être la création, en fait, de l'opéra comique, avec des opéras de Gluck, donc comme L'île de Merlin, L'arbre enchanté. C'est ainsi qu'il se fait connaître en France. Et soutenu à Paris par des philosophes tels que Diderot, Rousseau ou Voltaire, il souhaite réformer l'opéra. C'est-à-dire, il va faire en sorte qu'il y ait une plus grande fluidité entre l'air, l'aria et le récitatif, accompagné cette fois-ci de musique, qui va donner une plus grande continuité au drame. Il va y introduire des pages chorales, ce qui n'existait pas avant, et de la danse. C'est ainsi qu'il va rencontrer le librettiste, celui qui écrit les livrets d'opéra, Calzabigi, avec qui il va faire ses trois plus grands opéras, en 1762 Orphée et Eurydice, en 1767 Alceste, et en 1770 Paris et Hélène. Nous allons maintenant écouter, bien sûr, chanté par Janet Baker, un extrait de l'Orfeo et Eurydice, « Che farò senza Euridice ?» Et oui, avec la création d'Orphée et Eurydice, Alceste, les airs dramatiques sont débarrassés de la virtuosité et des répétitions de l'air traditionnel de l'opéra seria. C'est aussi à cette époque que Gluck est le professeur de clavecin de Marie-Antoinette. Il arrive donc à Paris, il réforme l'opéra français, il va créer donc Alceste en français, Orfeo et Eurydice en français en 1774, il a 60 ans. Il crée Armide aussi en 1777 et il dit « Avec cet opéra, j'aimerais finir ma carrière. » Il faut savoir qu'à cette époque-là, il va y avoir une querelle entre un autre compositeur qui s'appelle Piccini et lui. Les Italiens, dirigés par Piccini, supportent mal la francisation de l'opéra italien. Et cela crée une polémique avec ce compositeur Piccini, arrivé depuis un an à Paris. Qui était Piccini ? Piccini était un compositeur qui vivait à Venise et qui avait mis beaucoup de pièces de Goldoni en opéra. C'était donc des pièces assez gaies et donc tout en opposition avec celles que faisait Gluck. Et ça va donc fomenter une querelle qui va tenir tous les salons parisiens. Et Voltaire, à propos de cette chorale, dira, en voyant un jour Glouc arriver dans un salon, « Avancez, que je vous embrasse, monsieur !» Et quand il verra Piccini derrière, il dira, « Ah, vous venez après Glouc !» Eh bien, bien, cela est juste. En 1779, il a 65 ans, il crée Iphigénie Antoride, dédiée à Marie-Antoinette, et puis il crée Écho et Narcisse, et là, ça sera un véritable échec. Glouc, d'ailleurs, en fera une attaque d'apoplexie, et il dira, désormais, je ne ferai plus aucun opéra. Il finit sa carrière. Mon âge, le dégoût que j'ai essuyé dernièrement à Paris avec mon opéra Narcisse et Écho, m'ont pour jamais dégoûté d'en faire d'autres. Il rentre à Vienne. Il va avoir une nouvelle attaque, l'année de la mort de Marie-Thérèse d'Autriche, en 1780. Il en aura une autre en 1781. Lorsque Paris apprend encore cette attaque, eh bien, on va reprendre Écho. Mais il demande surtout à ce qu'on reprenne pour lui l'enlèvement au sérail de Mozart, créé en juillet. Et Glouc m'en a fait beaucoup de compliments, dira Mozart. C'est aussi cette année-là qu'il va essayer un début de collaboration avec Salieri. Il va donner les Danaïdes avec lui. Mais en 1786, eh bien, il a 72 ans, il perd la parole. Et en 1787, à l'âge de 73 ans, une dernière attaque, le 15 novembre, eh bien, l'emporte à jamais. On pourra lire sur sa tombe « Sigi, un honnête Allemand, un chrétien zélé, un époux fidèle, Christophe, chevalier Glouc, grand maître du noble art musical. » Richard Wagner disait de Glouc « La révolution de Glouc ne fut en réalité qu'une révolte du compositeur de musique contre la fantaisie du chanteur qui voulait montrer ses vocalises. » Glouc a exprimé consciemment et à fond la nécessité inéluctable d'une expression conforme aux paroles dans l'air et dans le récitatif. Que puro ciel.
Thank you.
C'est avec ce dernier ballet, dernier extrait d'Orphée et Eurydice que nous quitterons Christophe Willibald de Gluck, son épouse et son époque. Et je vous dis à bientôt à Portée de Notes.
Yeah.